It's breathtaking.
When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in?
Yes, it's called swimming.
I don't believe you.
In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides.
Your father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive?
C'est la grosse sortie du mois, Dune 2. Le sang a rougi le sable d'Arrakis. Et bientôt, le sang va s'étaler dans mon salon, parce qu'on n'est pas d'accord.
On va se battre.
Mais avant, François, est-ce que tu veux bien nous faire le pitch?
Ah oui, résumé des épisodes précédents. Donc, nous sommes dans une espèce d'empire galactique où il y a une planète qui s'appelle Arrakis. Sur cette planète, il y a une substance qui s'appelle l'épice. Qui contrôle l'épice contrôle l'univers, car l'épice sert notamment au voyage intergalactique, un petit peu l'essence de l'espace. En plus d'être une drogue,
c'est aussi
assez étonnant.
Et d'allonger la durée de vie aussi.
Voilà. Une concession dans le premier épisode a été donnée à la maison Atreides pour reprendre l'exploitation de l'épice sur Arrakis, mais ceux-ci ont été trahis par l'empereur et par leur ennemi héréditaire, la maison Harkonnen, ce qui a mené à la destruction quasi totale de la maison Atreides, sauf la mère, Jessica, et le fils, Paul Atreides, qui se sont réfugiés dans le désert auprès des tribus autochtones appelées les Fremen. Et donc
ça, c'était le premier film.
Et donc, dans ce deuxième film, Paul Atreides va essayer de prendre sa revanche, en tout cas, en surfant sur une prophétie annonçant la venue d'un messie libérateur, et il va donc essayer de peut-être prendre le contrôle et peut-être d'armer une révolution contre la tyrannie et le joug Harkonnen.
Merci François. Bah, c'était un très beau résumé.
Je connais bien Dune.
Alors, par quoi on peut commencer? Allez, Justin, on sait que t'es
Justin,
pas content.
Faut dire aux auditeurs qu'on s'est déjà battu pour le premier film et que le deuxième film étant la suite du premier avec à peu près les mêmes intentions artistiques.
Il n'y avait pas
de miracle à attendre pour Justin.
On vous invite à aller écouter l'ancienne émission.
Ou pas, si vous avez peur de la violence, parce que là, là c'est une émission de réconciliation.
Ou pas. Alors, je reviens déjà un peu sur les reproches que j'avais sur le premier film, où je trouvais que Denis Villeneuve était passé, mais complètement à côté du mysticisme qu'il y avait dans le livre, et que je trouve David Lynch, malgré les défauts qu'il pouvait avoir dans son adaptation, avait vraiment magnifiquement réussi à capturer, quoi. Et je me souviens, c'est quelque chose que j'avais dit dans la première discussion sur le premier, qu'il y avait une scène, à cause de ce que j'avais vu dans les notes d'intention du premier film, il y avait une scène qui était incroyable dans le David Lynch et que...
Celle où il boit l'eau de la vie.
J'étais sûr qu'il allait la rater dans celui-ci. Et effectivement, dans celui-ci, alors il l'a pas raté, mais il l'a sabordé.
Ou alors dit autrement, il a une approche réaliste cette scène.
Il l'a sabordé, mais volontairement. C'est pas qu'il l'a raté. C'est par rapport à la note d'intention de non-mysticisme qu'il avait dans le premier. Du coup, il l'a sabordé là parce qu'en fait, il fait un choix. C'est un petit pas de côté par rapport au livre. Mais en même temps, il anticipe ce qui se passe dans le troisième livre qui est le Messie de Dune. Parce que il l'anticipe là, c'était moins présent dans le...
Je précise, c'est le Messie de Dune, c'est le deuxième, mais Dune, à la base, est sorti en deux tomes.
Le deuxième. Et il anticipe un peu ce qui se passe dans le Messie de Dune, c'est-à-dire que le fait qu'à un moment donné, Paul devienne omniscient de tout ce qui peut lui arriver, Paul va comprendre que le fait qu'il soit devenu tout puissant, totalement omniscient grâce à l'épice en ayant pris l'eau de la vie, il peut voir tous les futurs possibles, et le fait qu'il soit au pouvoir amène à l'apocalypse. Donc il va prendre conscience dans le Messie de Dune, et en fait là il l'annonce déjà dans ce deuxième film là. Denis Villeneuve se sert de cet élément là du livre suivant pour un petit peu remettre en question l'aspect mystique, l'aspect religieux. Alors ça, j'ai rien contre. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'était une approche qu'il y avait déjà dans, par exemple, je fais un comparatif, dans, si on compare dans le premier Matrix et Matrix Reloaded, par exemple, le premier Matrix, c'était totalement la croyance en l'élu. C'était un film complètement croyant dans le mythe, dans l'élu. Et le deuxième, on te dit, c'est du bullshit, c'est une manipulation depuis le début de la Matrice pour un peu endormir les gens, leur faire croire qu'ils vont être sauvés. Et en fait, il essaie de jouer sur ce ressort-là, donc moi, je trouve ça intéressant. Sauf que la différence, c'est que Matrix, au moins, t'avais eu le premier Matrix où t'avais eu, ça avait embrassé complètement le côté mythologique. Et donc, ça jouait sur les deux.
C'est-à-dire que tu pouvais te dire, est-ce que c'est vraiment l'objet de la prophétie? Est-ce qu'il y a vraiment une prophétie? Ouais. Ou est-ce que c'est totalement du bullshit?
Ouais. Ou est-ce que c'est les deux en même temps? C'est-à-dire que c'est du temps, ouais. C'était programmé comme du bullshit, mais il s'avère que il y a vraiment, l'élu va vraiment finalement transcender ça. Alors que là, tout est clair, c'est-à-dire il croit pas du tout, il remet en question, c'est une manipulation, tout ce qui est prophétie, c'est interprété comme une totale manipulation dans le film avec Dame Jessica. Et du coup, bah, c'est normal qu'il s'aborde la scène de l'eau de la vie, puisqu'il n'y croit pas. Et donc, moi, ça m'a manqué. C'est-à-dire, on se trouve avec un truc terre à terre.
Une ambiguïté, tu veux dire.
Oui, il manque une ambiguïté, ou qui joue sur les deux, quoi. Parce que et le fait qu'il y ait zéro mysticisme.
Je vais juste prendre un autre exemple très rapidement, mais c'est vrai que dans Harry Potter, par exemple, il y a une ambiguïté sur qui est l'élu de la prophétie. Est-ce que c'est Harry Potter ou est-ce que c'est Neville? Sauf que Harry Potter, comme il se prend pour l'élu, et bah, du coup, il a un comportement d'élu. Mais là, c'est vrai que Paul, dans le film, n'est pas dupe. Que tout ça est une mascarade, on va dire.
Le problème, c'est que, pardon, et que ça s'aborde, du coup, les moments qui pourraient être épiques. Genre, quand il chevauche son premier verre, j'ai encéphalogramme plein, hein, c'est bien fait, il y a de la thune, il y a les effets spéciaux, mais je n'ai rien à foutre, quoi.
Après, c'est peut-être aussi. Bon, le deuxième film arrive quand même à bien avancer l'univers et les différentes intrigues. Notamment parce que le premier a été au final une très grosse introduction qui a permis de poser les enjeux, les différents personnages et tout. Mais je trouve qu'au niveau de cette histoire de prophétie, en fait, faut pas oublier qu'en vrai, il y en a deux. Il y a celle que les Bene Gesserit ont amenée sur Dune, qui a mis Lissane Al-Gaïb, tout ça. Mais qu'en fait, un dérivé de leur propre prophétie à elle, qui annonce l'arrivée du Kwisatz Haderach,
l'être suprême,
qui est un être que les Bene Gesserit veulent faire arriver. Et justement, et dans le film, il y a une ambiguïté parce que, alors ça passe un peu vite dessus, mais en fait, il y en a deux candidats potentiels à ce titre-là. Il y a Paul d'un côté et son rival dans le film,
Fedrauta,
oui. C'est ça.
Qui, les deux pouvant, enfin, sont tirés de ces lignées.
Oui, en fait, il y a plusieurs lignées, il y en a même d'autres potentiellement ailleurs. Hein.
Et c'est vrai que du coup, il y a ce truc où, Paul gagne son duel face à son adversaire, devient du coup le seul élu potentiel restant. Et fait en fait que la prophétie, qui était peut-être en effet une manipulation à la de base, devient auto-réalisatrice.
Mais c'est plus un jeu politique qu'une prophétie finalement. Là. J'ai pas l'impression que c'est l'élu, c'est plus qu'il a su bien manœuvrer, c'est plutôt ça. Hein.
Bah, c'est après, je sais pas.
Le ressenti que j'ai en regardant le film, c'est qu'il a bien su manœuvrer pour rentrer dans les chaussons de l'élu, mais en fait, il n'est pas. Denis Villeneuve ne le voit pas du tout comme un être supérieur ou c'est quelqu'un qui joue de parfois malgré lui, parfois volontairement, mais qui joue de ce regard qu'on pose sur. D'ailleurs, il le refuse pendant une grande partie du film. Et après, quand il prend l'eau de la vie, il a une sorte de révélation, pas mystique, mais en tout cas, il a un basculement de son comportement, et là il devient une espèce de tyran de côté tout puissant, mais ça a l'air d'être plus un jeu politique ou de la schizophrénie, mais en aucun cas moi je le ressens comme quelque chose de mystique, quoi.
Juste pour revenir sur ce que tu disais, Justin, donc du coup pour toi le fait que la prophétie soit une mascarade, son récit initiatique, c'est-à-dire par exemple le fait qu'il chevauche un verre, n'a pas d'impact. Moi je trouve au contraire que du fait que ce ne soit qu'un misérable être humain très médiocre et très manipulateur, fait qu'on se dit que son verre il va peut-être pas le chevaucher en fait, hein. Il va peut-être se faire éclater, hein. Puisqu'en fait, c'est pas du tout l'élu. Ouais.
Mais en fait, c'est pas ça le problème. Moi, je te parle de la mise en scène de Denis Villeneuve où tu ressens zéro épique.
Zéro épique. Tu trouves pas que c'est épique quand il chevauche le verre?
Honnêtement.
Moi, j'ai trouvé que la scène était très impactante.
J'ai le souvenir du David Lynch avec les effets spéciaux qui sont pas ouf. et tout ça, ça m'a fait beaucoup plus enflammé.
Sauf que les moments où tu es sur le verre et que
attends,
tu vois
c'est filmé de loin, déjà, faut voir. Là, c'est filmé à 10 km.
Il y a des moments où tu as quasiment une vue TPS où tu es derrière le personnage qui est sur le verre et tu te prends tout le sable dans la gueule et tout ça. C'est vachement bien.
Non, mais il n'y a pas de plan dansant. Enfin, il n'y a pas de plan iconique, si tu veux. Moi, j'ai pas de vignette. Ah. J'ai pas mon money shot. C'est parce que c'est pas l'élu.
Je vois ce que tu veux
et
dire.
C'est parce que c'est pas l'élu. Ouais, parce que s'il faisait un money shot, un truc un peu une vignette.
Mais c'est pas Zack Snyder non plus.
C'est là où je vais être méchant justement. C'est qu'effectivement, dans le film, il n'y a pas d'esthétique de super-héros, il n'y a pas d'esthétique pompière. Puisqu'en fait, depuis le premier film, ce qui est embrassé comme esthétique, c'est plutôt une esthétique brutaliste, type tragédie grecque. On est plutôt là-dedans. Donc effectivement, ça n'a rien à faire de faire un personnage poseur. Dans ce contexte-là.
Ouais, mais c'est le refus du mystique qui fait qu'il peut pas se permettre de faire des plans comme ça.
Ça, c'est vrai. C'est dans les intentions.
Et bah, c'est une partie de ce qui me dérange. Moi.
Mais justement, s'affranchir de l'esthétique super-héros maintenant.
Non, mais il y avait manière de le faire. Il y a pas. Tu peux le faire sans faire David Lynch. Ça fait pas super-héros.
Non, je suis d'accord. Mais ça a déjà été fait par ailleurs. Donc bah, ça prend un autre chemin.
Tu peux le faire différemment. Il y a plein de manières de rendre iconique un perso sans prendre une pose super-héros.
Non, mais là, justement, il le rend pas iconique. Il le rend humain.
C'est mon problème.
Ah bah ouais, c'est pas
bah
mon
non, et en fait, moi je préfère. Alors, parce que, bon, je sais pas si vous êtes allé sur.
En tout cas, j'aurais aimé avoir les deux. C'est-à-dire, de temps en temps, il le montre la facette vulnérable. Et d'autres moments, t'as le côté messianique.
Ouais, mais ça aurait posé problème. Parce que, je sais pas si vous êtes déjà allé sur Twitter ces derniers temps, il y a déjà des gens qui n'ont pas compris que Paul, c'était un tyran sanguinaire à la fin du film. Et que c'était pas un héros, justement.
Bah, aller lire les livres.
Bah, hein. Oui, le truc, c'est que si déjà ils le comprennent pas visuellement ou au niveau du sens.
Mais même le jeu de Timothy Chalamet, tu sens qu'à un moment donné il a basculé.
Justement, il y a des gens qui le sentent pas. Écoute, on vit dans un monde où il y a des gens pour qui se sont rendus compte à la fin de la saison 3 comme Lander c'était un méchant, enfin de The Boys. Enfin, on est sur un truc où il y a des gens qui juste ne comprennent pas. Donc
en plus tout est fait parce que tu vois bien l'attitude.
C'est des gens ou c'est des Américains?
Pas que parce qu'il
y a des Américains, ils n'ont toujours pas compris Starship Troopers.
En plus, on voit bien que Zendaya se détourne de lui parce qu'elle a vu qu'il a changé Shani, voilà, Zendaya.
Mais ça, est-ce que c'est pas une réussite du film, justement, le fait que le personnage de Shani
est un personnage.
Voilà, déjà, d'avoir fait de Shani un personnage qui était quand même...
Parce que dans les bouquins, c'était pas ça.
Oui.
Dans le Lynch non plus, c'est un peu la...
Ça, c'est quand même une réussite du film.
Ça, c'est intéressant, quoi.
Il y a aussi, d'ailleurs, on va en parler quand même, la planète Harkonnen. Dans ce film, absolument incroyable. Cette esthétique en noir et blanc qui va changer d'image quand ils sont en intérieur, en extérieur, leurs espèces de grandes bâtisses à la Giger, c'était incroyable.
Alors j'aime bien les enjeux de la séquence quand il y a le baron qui trahit son neveu, hein, ça fait Draut. Il le trahit pour le tester en quelque sorte. Moi j'aime bien les enjeux. Après l'esthétique, je suis pas fan. Et une nouvelle fois, je vais encore parler de David Lynch. Souvenez-vous, les décors de la planète Harkonnen dans le Lynch, comment c'était un truc de direction artistique incroyable quand même.
Bah là, on est sur une autre direction artistique, mais c'est aussi incroyable. Hein.
Ouais, moi je trouve que ça m'a pas parlé.
Ah oui, c'est le débat qu'on avait déjà eu sur le premier, c'est-à-dire que moi, cette esthétique opéra wagnérien, postmoderne, brutaliste, avec des effets de lumière très projo, etc., qui pouvait y avoir dans une certaine mesure déjà d'ailleurs dans la suite de Blade Runner. Sur des effets de lumière dans des habillages comme ça. Moi, je suis extrêmement client de ça.
Ouais,
moi, je me suis régalé visuellement dans le film, encore une fois.
On a beaucoup vu ça ces dernières années, en fait.
Chez qui ?
Le côté, l'esthétique brutaliste, ne serait-ce qu'un Hunger Games, même le dernier, ce côté bâtiment, machin, même dans... Même lui-même l'a déjà fait, Premier Contact, quand tu vois l'esthétique des vaisseaux.
Lui, c'est son esthétique depuis le début.
Oui, mais t'as d'autres films, le côté brutal. C'est, au contraire, c'est à la mode.
Oui, mais,
le dernier James Bond, la base du méchant, c'est un total truc délire brutaliste.
On s'était déjà disputé à tuer la dernière fois, mais je pense que... Il y a parfois des retours de mode, etc.,
mais là, c'est pas un retour de mode, colorée... c'est la mode.
Non, mais l'ASF colorée est encore très présente. Les Gardiens de la Galaxie 3, ça existe. Halo, ça existe toujours. Il y a toujours de l'ASF extrêmement colorée et chatoyante.
Ant-Man 3.
Oui.
Non, mais
tout de suite. Ces deux esthétiques, effectivement, dans l'ASF, qui sont un peu concurrentes, mais j'ai jamais l'impression qu'il y en a vraiment
j'ai rien contre l'esthétique brutaliste, en fait, en soi. C'est juste que, actuellement, on va dire les 5, 6, 7 dernières années, dans les blockbusters, c'est pas nouveau d'avoir une esthétique comme actuellement.
Je suis d'accord que c'est pas nouveau.
Mais après,
qu'est-ce que j'ai bien fait ?
Oui, mais.
Le siège Stabber, qu'est-ce que c'est
beau. Une nouvelle
fois,
je vais parler du David Lynch, quand il est sorti post-Star Wars, post plein de trucs de space opéra qui étaient sortis à l'époque. Ça ressemblait à rien d'autre que le David Lynch. Quand il est sorti, 85, alors qu'on est dans l'âge d'or du space opéra, on avait un space opéra, deux space opéra par an, à l'époque où il sort. Moi, on n'a jamais vu ça. Même actuellement, là, tu regardes ça, tu te dis, on n'a pas vu autre chose.
Si tu veux me dire que David Lynch est un réalisateur unique en son genre, qui déploie des esthétiques qu'on voit nulle part ailleurs, et que c'est peut-être l'un des plus grands réalisateurs du cinéma, et Denis Villeneuve ne l'est pas encore, je suis d'accord avec toi.
J'avais le droit de... À part Dune, moi, j'aime bien Denis Villeneuve. Hein, donc, c'est parce que là, on va croire que je suis un hater. J'aime bien ce qu'il fait. Donc, moi, j'avais cette attente-là de sa part. J'avais déjà atteint une proposition.
Je suis d'accord.
Ça sortait de l'ordinaire. Oui. Pour le coup, c'était un des qui lançait cette mode du brutalisme.
Non, mais c'est un film de studio, on est d'accord.
Ouais, mais il avait quand même relativement les coudées franches. On lui a pas imposé tant que ça. Hein. Je pense que il a le director's cut, il a quand même.
Après, je pense qu'il a un enjeu de. Comme tu le disais tout à l'heure, Nam, je pense que sur ce film-là, il a un enjeu d'intelligibilité qui fait qu'effectivement, parfois, il se met dans des codes plus que dans d'autres films où il se dit « Bon, là, je vais avoir des nerds de l'ASF, je peux faire un peu ce que je veux. » Et effectivement, c'est un film, à cet égard-là, qui est sans doute plus grand public. Et on peut le déplorer.
Oui, parce que oui, le film marche et tout, mais il y a un refus de l'évidence que je respecte.
Il y a un refus des grosses batailles, par exemple.
Il y a un refus de l'évidence que je respecte, mais qui, des fois... Il pourrait aussi accepter de temps en temps d'avoir ces évidences-là à certains moments du film. Et là, on a l'impression que c'est un pas de côté. C'est-à-dire les deux films, on a l'impression d'avoir un pas de côté de deux films plutôt que d'embrasser le truc. Quoi.
Mais après, il y a toujours ce problème du Dune, qui est inhérent à l'adaptation de ce livre. C'est-à-dire que dans le livre, les personnages sont des personnages qui sont très mentaux. Dans le sens où beaucoup de choses se passent dans leur tête.
Oui, ils sont tourmentés.
D'ailleurs c'était un des trucs très discutables du David Lynch, c'est-à-dire que tu avais plein de monologues en voix off.
C'est ça.
Ils copiaient-collaient des monologues du livre. Hein. Ils n'avaient pas trouvé d'idée pour...
Mais donc à partir du moment où tu retires ces monologues et cette vie intérieure, tu es obligé de remplacer ça par autre chose. Parce que dans le livre, c'est des passages où en mode, par exemple, le médecin hué, celui qui les trahit. Dans le livre, il y a un passage qui t'annonce sa trahison, où en fait, il est en train de parler avec la mère Atreide, et... Tu s'appelles pas Atreide, mais bon, bref, vous l'avez compris. La mère Atreide, et...
Jessica.
Et à un moment, il parle, et il fait une micro-pause dans une phrase. Il s'avère que la Jessica, elle voit le truc, dans le livre, et elle voit le truc, et elle décide de pas y prêter attention.
D'ailleurs, c'est repris dans le film, dans le Lynch, par exemple, où elle regarde ses lèvres, elle voit le mouvement de ses lèvres, elle comprend que la pensée, elle est déconnectée. Enfin,
des petits gestes, ils vont être extrêmement signifiants, sauf que pour avoir cette signifiance, c'est obligé que ce soit souligné, qu'on te le dise bien, parce que va capter ces trucs, tu n'es pas ces personnages. On peut pas attendre de toi que tu analyses les micro-expressions sur le visage des acteurs. Mais du coup, y a quand même toute une partie de l'histoire.
Après, c'était pas mal fait dans le premier film de Villeneuve, hein, côté de la. Je reproche pas ça. Hein.
Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, par exemple, il y a tout un aspect. De questionnement intérieur qui passe à la trappe, fatalement. Mais même si dans ce film-là, on va un petit peu retrouver ça quand même, ne serait-ce qu'avec les discussions entre Jessica et sa fille, Annette.
Alia. Pour le coup, j'ai pas d'opinion dessus, mais c'est assez audacieux ce qu'il a fait.
Ouais, alors, le changement.
Moi, j'ai une opinion.
J'ai pas d'opinion ni positive ni négative. Pourquoi pas.
Je pense que le fait de l'avoir gardé enceinte tout le long, c'est pour éviter de se retrouver avec un
enfant de 10 ans qui parle. C'est un peu.
Non, même pas, parce que dans le bouquin, c'est genre elle a 3-4 ans, mais elle te parle comme si elle en est 80.
Oui, ça c'est un peu goofy dans le Lynch. Notamment.
Donc.
C'est bizarre, c'est flippant. Ouais,
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, qu'on ait ce truc, il aurait fallu faire un. Une créature numérique CGI.
Tu peux prendre une actrice qui peut jouer.
À 3-4 ans?
Dans le Lynch, ils ont pris une gamine.
Elle doit avoir 6-7 ans dans le Lynch, ça passe. Hein.
Ouais.
Sachant qu'il y a quelques années, il y avait un film qui était sorti de Brad Bird, Tomorrowland, où t'as une gamine qui joue une androïde, je sais pas si tu l'as vu, Et franchement, tu l'as vu ?
Ouais, j'ai vu.
Elle est incroyable.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, c'est une gamine, elle doit avoir 7-8 ans, et elle joue un androïde qui est censé être adulte, et donc elle se retrouve dans des situations, même limite un peu cringe, un peu bizarre avec George Clooney, parce qu'en gros, elle a connu George Clooney enfant, et George Clooney était un peu amoureux d'elle quand il était enfant, et donc t'as des situations où c'est elle qui est l'adulte, alors qu'elle a encore de petites filles, tout ça, et elle le joue super bien. Donc tu peux trouver, il y a des acteurs qui sont bons,
après, moi,
très jeunes.
Mais du coup, voilà, bon, il a décidé de ne pas prendre le risque. Moi, je trouve que dans le... Parce que je voulais juste dire ça. Dans le film, ça pose un problème, j'ai trouvé. C'est que, bah, fatalement, la période de la gestation, c'est 9 mois. Donc, fatalement, le récit est vachement plus court. Là où dans le film, notamment toute la partie résistance, s'étale sur plusieurs années. Là, il y a le côté, bon, bah, ils ont fait 3 mois de résistance et puis ils ont libéré toute la partie nord de Dune. Et ils étaient 20 pour faire ça. Et du coup, j'ai un peu plus de mal à croire à ce truc-là.
Malgré tout, cet aspect-là, je trouve que c'est un des apports par rapport au Lynch. Parce que là, le Lynch... La première heure est incroyable, hein, franchement, on est scotché. La deuxième heure était rushée complètement. Et là, t'as l'impression que tout ce qui était rushé dans la deuxième heure du Lynch, t'as quand même un film entier pour le développer, la résistance, les assauts, mais tout ça. C'est intéressant.
Au niveau du temps qui passe, je trouve que du coup, ça marche moins bien.
Ouais.
Parce que justement, un des marqueurs du temps, bah, c'est la Jessica qui est enceinte. Quoi. Ouais.
Alors, vous voulez que je vous explique la vraie raison du pourquoi du choix d'Anya Taylor-Joy en vision plutôt que de la naissance de l'enfant ?
Vas-y.
C'est parce qu'en fait, Denis Villeneuve veut vraiment faire le troisième film qui sera adapté du Messie de Dune. Le Messie de Dune qui est un roman par ailleurs, moi je trouve très moyen, donc sur lequel il a besoin de rajouter des enjeux, et surtout dans lequel Paul Atreides n'est pas. Et donc en fait, on aura un trio féminin pour porter ce film, qui sera donc Shani joué par Zendaya, Irulan joué par Florence Pugh, et Alia joué par Anya Taylor-Joy, et donc ça fera comme ça une triade qui permettra de porter le film et de renouveler les choses. Et à cet égard-là, je trouve qu'il a tout mis en place pour rendre le troisième film intéressant, ce qui n'était pas du tout gagné par rapport au matériau de base, qui est beaucoup plus court par ailleurs.
Oui, oui. Et j'ai pas réussi à finir d'ailleurs.
Ouais, mais à mon avis, de toute façon, le troisième film risque d'être très différent, vu que là, la fin
c'est
est annoncée.
C'est très politique.
Parce que c'est, normalement, ça se termine pas comme ça. C'est-à-dire que, je crois, si je me souviens bien, dans le Dune, le fait qu'ils tiennent l'épice, qu'ils tiennent la planète, ils tiennent la galaxie en otage, et puis il n'y a pas tant de guerre que ça. Enfin, il y a des intrigues de palais pour le destituer, mais. Et moi, il tient la galaxie du fait de tenir la planète avec l'épice. Que là, on t'annonce que ça va être la guerre
Totale.
Oui,
mais il entame quand même un djihad galactique qui, comme dans ses prophéties, l'annonce, vont faire des milliards de morts.
Après, c'est aussi que dans les livres, t'as la fin du premier Dune, Paul conquiert Dune et il part dans l'espace avec ses hommes. Début du livre d'après, Paul est le chef de la galaxie.
Oui, c'est ça, c'est devenu l'empereur.
Non, mais tu vois, genre, il y a tout un laps de temps qu'on n'a pas vu.
Ouais.
Ce qui fait que le film arrivera probablement d'ailleurs
même
pas
si,
tout de suite.
Tu devines qu'il va, à la fin du Dune, tu comprends quand même que...
Ça va castagner ses nerfs.
Il tient la planète, personne ne va bouger.
Film, il y a une rébellion contre lui, mais de toute façon, dans les faits, effectivement, comme il contrôle l'épice, il contrôle l'univers, il va leur rouler dessus, et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer.
Mais j'ai l'impression qu'il annonce il a mis en place pour que t'aies quand même un peu des scènes de bataille, des choses comme ça dans le film
suivant.
Avec aussi
un autre personnage qui est le personnage de Léa Seydoux par ailleurs, qui n'est pas présent dans le bouquin et qui permettra de faire, à mon avis, parce qu'en gros, il y a une espèce de gars qui veut remplacer Paul la tête de l'Empire, qui est une espèce de neveu du précédent, mais qui n'a aucun intérêt et qui est importé un peu comme ça. Là, je pense que si c'est le fils Harkonnen, ça rajoute des enjeux un peu. Intéressant.
D'ailleurs, j'ai bien aimé. Comment il s'appelle Austin Butler en Fade Out.
Moi, je suis un gros hater de Austin Butler et je l'ai trouvé vraiment très bien dans le film. Pourtant, je suis un gros hater. Hein, vraiment,
j'adore Elvis. Moi, j'avais dit tout le bien d'Elvis.
J'ai beaucoup aimé que ce personnage, il doit vraiment avoir 10 lignes de dialogue à tout péter dans le film. Et pour autant, il te tient le personnage, alors qu'il n'en a pas vraiment.
Mais il est super menaçant. Il est flippant. Et en même temps, il a l'air vulnérable, il a l'air complètement torturé.
Petit gabarit comme ça fasse peur à Dave Bautista.
Surtout que dans le Lynch, c'était Sting. Bon, c'était pas trop ça, c'était une crevette. Oui. Il faisait peur
Sting
à personne. Mais en plus, c'était pas du tout intimidant. Alors que là, il est vraiment intimidant parce qu'il a l'air imprévisible, il a l'air complètement taré et tout.
Non, c'était très bon ajout. Plutôt rigolo aussi, je trouvais la princesse Irulan, dont le nom n'est jamais cité dans le film, mais pour autant tu comprends tout à fait ce qu'elle est, son rôle et qui elle est.
Ce qui est marrant, c'est dans le livre, On a juste ces citations. Elle introduit ces citations qui introduisent chaque chapitre. Mais elle n'est pas vraiment présente, hormis peut-être le dernier chapitre. Et là, ils l'ont développé un petit peu.
Là, justement, en fait, on la voit, elle, en train d'écrire ses citations.
Ouais, ouais.
Parce que y a dans le livre, on sait aussi que les mémoires d'Irulan seront plus tard une sorte de bible. Et en fait, qu'elle est en train d'écrire à ce moment-là. Donc, c'est comme ça qu'elle a introduite aussi.
Ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que ça met aussi en place des mécaniques de flash-forward.
Oui.
Où en fait, les citations d'Irulan nous indiquent, par exemple, la trahison de Yue est indiquée, par exemple, il est toujours appelé le traître dans les citations. Et donc, on se dit, mais alors pourquoi le traître ? Alors, c'est quoi ce bordel ? Et en fait, moi, cette mécanique-là, elle est quasiment. Ça, tu peux pas la retranscrire au cinéma.
C'est une belle idée, mais tu peux pas.
Voilà. Ouais.
Mais voilà, en tout cas, bon bah là, sauf Justin, vous aurez compris qu'a pas aimé, nous on a plutôt apprécié.
Bah, plutôt un bon film, pour moi c'est pas effectivement dans les... Je suis pas sûr que ce soit un grand film exceptionnel, éternel, que ce soit le meilleur film de Denis Villeneuve, je préfère aussi Premier Contact. En revanche, on est gâté d'avoir une si belle adaptation de Dune, surtout en à une époque où les blockbusters sont quand même de piètre qualité.
Oui, c'est comme, le film est quand même exigeant malgré tout. Voilà. J'ai pas aimé, mais il y a une ambition, il y a une exigence qu'il faut reconnaître malgré tout.
Parce que bon, le mois dernier, on a quand même vu Madame Web. Hein. On en a pas parlé finalement, mais on a quand même vu Madame Web. Hein.
Voilà. Était-ce vraiment un blockbuster ? Sinon aussi, juste un dernier petit truc. J'ai adoré la musique d'Hans Zimmer, alors que pareil, hein, je suis pas un grand fan d'Hans Zimmer, et je trouve que la musique du Lynch est incroyable, c'était indépassable comme partition. J'ai été vraiment, moi, j'ai été entraîné dans le film en fait, par la musique, les décors, l'ambiance très monolithique qu'il y a dans le film. Moi, c'est vraiment un truc, j'étais captivé de A à Z, quoi.
Et ça m'a pas fait le truc de la dernière du film d'avant. Quand le film d'avant c'était fini, moi il me manquait encore une demi-heure de film. Là, le film s'est fini, j'ai fait ah bah c'était bien.
Moi, voilà.
C'était fini, c'est un peu en queue de poisson quand même. Le premier, ils ont pas su finir, c'était un peu n'importe quoi.
Peut-être un micro truc où nous avait quand même hypé les Sardaukar, donc qui sont la garde de l'empereur, et là ils se font rouler dessus quand même en 3 secondes. Peut-être un poil déçu là-dessus, mais je comprends que le film utilise les batailles, non pas comme des résolutions de conflits comme il y aurait dans les Marvel, mais comme des amorces de scènes, et en fait la résolution arrive après la bataille, ce qui est quand même une manière de représenter la guerre qui est quand même un petit peu moins complaisante et un peu plus intéressante quand même. Donc je comprends ce choix-là aussi, même si j'aurais aimé une grosse bataille un peu plus...
Oui.
Seigneur des Anneauesques.
Bah oui, mais.
Moi, 45 minutes de bataille avec des vers, j'aurais aimé. Voilà. J'avoue, des fois, j'aimerais bien que le film soit un peu stupide.
Oui, des plaisirs simples aussi.
Parfois. Mais j'ai quand même apprécié mon visionnage.
La troisième rangée, votre podcast mensuel des sorties cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager nos émissions.